C'est intéressant de lire d'une manière suivie un livre en entier, par exemple, ou une épître en entier. Parce qu'alors on voit apparaître, il y a des mots qui reviennent, il y a des personnages qui reviennent, et il y a des situations qui reviennent constamment. Et on voit qu'il y a un fil conducteur dans ce livre. Ce que nous ne sommes pas toujours capables de voir lorsqu'on lit un peu à gauche, à droite. Et c'est particulièrement le cas, je trouve, dans le livre des juges. J'ai relu le livre des juges et j'ai pu constater qu'il y a dans ce livre les mêmes situations qui se reproduisent vraiment régulièrement, les mêmes scénarios. Cette période de l'histoire d'Israël, donc, elle est caractérisée par la répétition de quatre situations successives. À chaque fois, donc, lorsque vous lisez, c'est presque à chaque début de chaque chapitre, pardon, vous avez d'abord Israël qui s'éloigne de Dieu. Israël qui abandonne Dieu pour les idoles, les Baals et tout ça. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, vous ne voulez plus de moi, Et alors il permet la défaite militaire, il permet l'oppression par une autre nation. Troisièmement, Israël supplie l'Éternel de le délivrer. Israël crie à l'Éternel. Et Dieu entend le cri de son peuple et Dieu suscite des juges. Des juges, ça veut dire des chefs militaires qui vont mettre fin à cette oppression et qui vont délivrer les Israéliens de leurs oppresseurs. Vous avez comme exemple Othniel, Gédéon, Samson et d'autres. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que dans cette lecture, donc, nous avons chaque fois ce peuple qui crie à l'Éternel. Chaque fois, il revient. Il y a un éternel retour vers l'Éternel. Et de l'autre côté, il y a le retour, non pas de l'Éternel, parce que lui, il n'est pas parti. C'est pas lui qui nous quitte, c'est nous qui l'abandonnons. Et l'éternel retour des bénédictions de Dieu. Donc Dieu ne tourne pas son dos à ce peuple. Et pourtant, ce scénario se répète tout le long du livre des juges. Alors on va lire deux passages qui illustrent cette situation qui se représente à plusieurs reprises dans ce livre. Alors nous avons d'abord, donc dans le livre des juges, au chapitre 3. On peut lire les sept premiers versets. Non, pardon. De 7 jusqu'à 11. Donc au chapitre 3, à partir de 7, nous avons une phrase que vous allez relire constamment dans le livre des juges. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Cushan-Rishathaïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan-Rishathaïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël, et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan-Rishathaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan-Rishathaïm. Le pays fut en repos pendant 40 ans, et Othniel, fils de Kenaz, mourut. Alors, malheureusement, ça ne va pas durer, parce que si vous allez au chapitre 6, au chapitre assises, à partir de 1. Voilà encore cette phrase qui se répète. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Je vais passer les deux autres versets. On passe au verset 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Mais malgré ce reproche, Dieu va quand même susciter un juge. Ce sera Gédéon. Hein, c'est le fameux passage où l'ange de l'Éternel dit à Gédéon, « Debout, vaillant guerrier. Hein, » Et Gédéon, il se dit, « À qui il parle, lui ? C'est à moi ?» Et donc, ce que nous voyons ici, il y a deux passages, mais il y en a plus dans le livre des juges, hein. C'est que, donc, nous avons à chaque fois, le peuple d'Israël qui désobéit. Il y a les conséquences de la désobéissance, mais à chaque fois, le peuple revient à l'Éternel. Et chaque fois, il crie, il le supplie de l'aider. Et Dieu ne lui tourne pas le dos, ne l'abandonne pas. Et il lui vient, il le secourt, il le pardonne et il le secourt. Qu'est-ce que ça nous rappelle, cette lecture à propos de notre Dieu ? Hein, on vient de parler des attributs de Dieu. Eh bien, ici, moi je pense tout d'abord à la patience de Dieu. Quelle patience ! Quelle patience, quelle bonté, quelle grâce, quelle miséricorde. Mais c'est vrai que la Bible nous parle de Dieu, bien sûr, mais elle nous révèle aussi qui nous sommes. Hein? Et est-ce que nous sommes capables de pardonner à quelqu'un qui vient régulièrement nous demander pardon? Est-ce qu'on a cette patience? Bon, quand quelqu'un vient pour la première fois nous demander pardon, oh, ben bien, oui, bien sûr, mon frère, il n'y a pas de problème. Hein? Bon, c'est des choses qui arrivent. Hein? Allez, on n'en parle plus, hein, on oublie. Hein. Et puis s'il vient une deuxième fois, mon frère, on a déjà eu ce problème, hein? Alors s'il vient une troisième fois, c'est moque de moi là, hein? Mais heureusement, notre Dieu n'est pas comme nous. Quelle patience envers ce peuple. Mais aussi, quelle patience envers nous. Hein. Nous sommes aussi très rapides pour juger, très sévèrement, hein, les autres. Des fois, je me demande si on n'est pas plus sévère que Dieu. Je prends un exemple dans la parole. Vous avez le passage où Pierre renie Jésus. Je me souviens, j'étais à l'école primaire, j'étais en sixième primaire, et j'avais un professeur de religion pour moi tout seul, parce que j'étais le seul protestant. Et on venait de lire ce passage avec Pierre qui renie Jésus, et je me souviens de la dame, son regard outré, et qui me dit, est-ce que tu te rends compte que Pierre, il a renié Jésus. Mais pas une fois, mais trois fois. Et moi, bon, j'avais 11 ans, moi, tout candidement, je dis d'une petite voix, mais madame, ben oui, mais il a eu peur. Elle m'a regardé, comment ? Ben oui, mais les enfants sont peut-être plus compréhensifs que nous, hein. Parce que les enfants comprennent qu'on puisse avoir peur. Nous, les adultes, on appelle ça de la lâcheté. Hein? Mais qu'est-ce que j'aurais fait à la place de Pierre? Hein? C'est facile de le juger, là, comme ça, 2000 ans après. Hein? Mais Jésus, lui, il ne le juge pas comme ça. Il va le pardonner. Pierre a renié Jésus trois fois et Jésus le pardonne trois fois. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, Jésus. Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. Paix mes brebis. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, je t'aime. Paix mes brebis. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, je t'aime. Paix mes brebis. Trois reniements, trois pardons. Il aurait pu dire, bon, une fois, je peux encore comprendre, t'as paniqué. Mais trois fois, hein? Il y a d'autres personnages comme ça, je vais juste encore en prendre un, que je trouve qu'on juge un peu sévèrement. C'est par exemple le frère aîné dans la parabole du fils prodigue. Vous avez donc ce fils prodigue qui revient, et le père, il est tellement content qu'il lui fait une fête. Alors il y a le grand frère qui râle, évidemment. Alors le grand frère râle, et alors qu'est-ce que j'ai pu entendre sur ce grand frère, hein? Il a vraiment le mauvais rôle, c'est un religieux, c'est un pharisien, ceci, cela. Mais il a réagi suivant l'éducation qu'il a reçue à cette époque-là. Qu'aurions-nous fait à sa place? Moi, je ne sais pas, moi, si dans ma famille j'aurais eu un frère qui serait parti faire la Nouba et qui aurait dépensé tout l'argent, et que j'aurais vu encore mon père continuer à dépenser de l'argent en plus, ben je ne sais pas, j'aurais quand même râlé. Voilà. Mais le père qui représente Dieu dans l'histoire, dans la parabole, le père, il pourrait dire, « Oh, tu baisses d'un ton, c'est moi qui commande ici, c'est moi qui... Je fais ce que je veux. Si t'es pas content, ben... » Mais non. Le père, il le prend par l'épaule et il lui dit, « mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir. » Alors, vous voyez, le père ne condamne pas. Et il essaye d'expliquer, de faire comprendre à son fils pourquoi il a agi comme ça et pourquoi lui aussi devrait se réjouir. Et c'est pour ça que Jésus raconte cette parabole, ce n'est pas pour condamner, mais c'est pour expliquer. Donc pour expliquer que ce qui compte avant tout, c'est la repentance. C'est ce qu'il y a de plus important. Alors, ce peuple d'Israël, lorsqu'on lit le livre des juges, on a tendance à se dire, ce peuple d'Israël, on a vraiment raison de dire que c'est un peuple au cou raide, rebelle. Quelle patience Dieu a eu avec ce peuple. Oh là là. Et au lieu de ça, je devrais dire, quelle patience il a avec moi. Quelle patience il a avec nous, frères et sœurs. Ne soyons pas trop rapides à juger les autres et parce qu'on n'est pas mieux. Hein, on n'est pas mieux. Et heureusement, nous avons un Dieu qui est patient, lent à la colère et qui est prompt à nous pardonner. Et à chaque fois qu'on revient à lui, eh bien, il ne tourne pas le dos. En effet, à chaque fois que le peuple d'Israël crie à Dieu et revient à lui, Dieu ne le rejette pas, ne le condamne pas, mais il le pardonne. Et il le délivre. Et il fait de même avec nous. Si à chaque fois que nous sommes éloignés de lui ou à chaque fois que nous avons eu un mauvais comportement. Parfois, nous sommes un peu gênés, nous avons un peu honte de nous représenter de nouveau devant lui, parce que c'est peut-être pas la première fois, c'est pas la première fois que j'ai dit que j'allais essayer de ne pas être impatient, de ne pas me mettre en colère. Et voilà, je suis encore une fois, je suis encore rechuté. Et n'ayons pas honte, peur de nous représenter, de revenir vers ce Dieu. Ne restons pas dans notre tristesse. Il y a un beau verset que j'ai utilisé, je crois que c'était au G30. C'est dans Esdras, au chapitre 9, au verset 6, qui dit « Mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte de lever ma face vers toi. » Mais c'est vrai que des fois on a honte, mais ça ne doit pas nous bloquer, ça ne doit pas nous empêcher de revenir à l'Éternel, de revenir au pied de la croix. « Seigneur, j'ai honte pour ce que j'ai fait, mais je reviens vers toi. » Rappelons-nous que notre Dieu est patient et miséricordieux. Il n'est pas comme nous qui tenons une comptabilité des fautes, des offenses qui nous sont faites. Ah ouais, mais toi, ça fait déjà la deuxième fois, hein? Ouais, mais toi, ouf. Non, à chaque fois, il ne nous tourne pas le dos, mais il nous accueille. Alors, maintenant que nous sommes rappelés, parce qu'on le savait, mais on aime se le rappeler, que nous avons un Dieu qui est bon, nous avons un Dieu qui est patient, lent à la colère, gracieux, miséricordieux, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Allons-nous profiter de cette grâce, de cette bonté? Parce que c'est vrai que parfois nous avons cette fâcheuse tendance de profiter quand quelqu'un est gentil, hein, quand quelqu'un est patient, on se dit, oh, celui-là, ça va. Hein. Moi, je me souviens, encore un souvenir d'école, pardon. Je me souviens, j'allais à l'école Saint-Laurent et j'habitais tout près. Et j'allais à pied et j'étais un de ceux qui habitaient le plus près. Mais j'étais un de ceux qui arrivaient tout le temps en retard. Et quand je me réveillais, le réveil sonnait à 7 heures, et la première chose que je pensais, c'était pas qu'est-ce que j'allais avoir comme cours. Est-ce que j'avais un cours de maths ou de géographie? Non. Je me disais, qu'est-ce que j'ai comme prof ce matin? Ah, ouh, celui. Oh. Là, je me rendormais. Ben oui, on est comme ça. Hein. Par contre, quand je pensais, waouh, j'ai histoire. Ouh, c'est Monsieur Frix. Oui, c'était. Alors là, je me levais, j'étais pas en retard. Hein. Ben oui, c'est comme ça. On a tendance à parfois profiter de. Mais voilà, de même que nous n'allons pas le faire avec nos frères et nos sœurs et notre prochain, eh bien, nous n'allons pas le faire avec Dieu. Non, certainement pas. Certainement pas. Et l'apôtre Paul dit, j'aime bien cette expression qu'il utilise, loin de là. J'aime bien quand il dit loin de là. Dans Romains au chapitre 6, dans les deux premiers versets, il dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Ça veut dire, est-ce que je vais provoquer cette bonté de Dieu, cette patience de Dieu? Non, loin de là. Loin de là. Et au verset 15, il dit, quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là, encore une fois. C'est vrai que je suis pardonné, que Jésus a payé le prix. Mais c'est pas pour ça que je peux continuer à pécher, certainement pas. Mais bien au contraire, nous allons chercher à obéir à Dieu, à nous conformer à son enseignement, à sa volonté. Nous allons chercher la volonté de Dieu et que notre comportement honore notre Dieu. Et pourquoi est-ce que nous allons faire cela? Parce que nous avons peur de Dieu. Non. Non. Parce que nous n'avons pas peur de Dieu, mais parce que nous aimons Dieu. C'est notre amour pour Dieu qui va nous motiver. Notre relation avec lui n'est pas basée sur la peur, la crainte, mais sur l'amour et l'affection. Amour de Dieu pour nous et affection que nous ressentons pour lui. Jean, dans sa première épître au chapitre 4, verset 18, nous dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Il s'agit ici de la relation qui nous unit à Dieu. C'est une relation qui est basée sur l'amour, pas sur la peur du châtiment. En tant qu'enfant de Dieu, bien que toujours respectueux de Dieu, nous n'avons plus la crainte dans le sens de peur. Nous avons la crainte de Dieu dans le sens que nous avons le respect envers lui. Nous avons le respect de Dieu. Mais nous n'avons pas à craindre car nous avons été pardonnés par le sacrifice de Christ et justifiés par le sacrifice de Christ. Et Paul encore dit dans Romains au chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Alors si nous obéissons, si nous voulons nous comporter de manière correcte, ce n'est pas par crainte, donc ce n'est pas par la crainte d'un châtiment. Si nous obéissons, ce n'est pas par crainte, mais par amour. À cause de l'affection que nous portons à notre Dieu qui nous a sauvés, en donnant la vie de Christ, de son Fils Jésus-Christ pour nos péchés. Et ça fait partie de la nouvelle naissance, je pense, cette prise de conscience, d'abord de ce que nous sommes, nous. On prend conscience de ce qu'on est. Et ça ne nous ravit pas. Ça nous plonge même dans une tristesse. Mais c'est une tristesse qui est salutaire, nous dit Paul. Et nous prenons conscience de l'amour de Dieu. Comment Dieu a-t-il pu être aussi patient avec moi? Quel amour il a pu avoir avec moi pour donner son Fils pour moi, pour que je sois justifié, sauvé. On prend aussi conscience que rien, qu'on ne pouvait rien faire, qu'on était impuissant, sans force, pour être sauvé. On prend aussi conscience que Dieu n'était pas obligé. Ben c'est vrai, Dieu, il n'a personne au-dessus de lui, il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Il prend une décision, il n'y a personne qui va la contester. Alors lorsqu'on prend conscience de tout ça, ben on se met à aimer ce Dieu extraordinaire. On se met à l'aimer. Et quand on aime quelqu'un, ben qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour lui plaire. Et je ne parle pas ici de séduction, on n'essaie pas de séduire Dieu, on essaie de lui plaire, c'est-à-dire on veut qu'il soit content de nous. Et comment peut-il être content? C'est à travers notre comportement que Dieu se réjouit. Voyons donc apparaître deux sortes d'obéissance, deux façons d'obéir. Il y a l'obéissance par contrainte. Dans notre vie courante, c'est pratiquement souvent par contrainte qu'on obéit. Hein? Lorsque je tourne pendant 20 minutes pour trouver une place pour me parquer, qu'est-ce qui m'empêche d'aller me parquer là? Ben, c'est parce que c'est stationnement interdit et si je vais, je risque d'avoir un procès. C'est pas par civisme. Hein? Bon. Quand je suis en retard, et qu'est-ce qui m'empêche d'appuyer sur le champignon et de dépasser les limites de vitesse? Qu'est-ce qui m'empêche, encore une fois, c'est quoi? C'est pas mon civisme, hein? C'est le radar. Ça, c'est l'obéissance par contrainte. Et bien souvent, on obéit par contrainte, par peur de la punition, par peur du châtiment, par peur des conséquences. Si je fais ça, mais je vais avoir autant de problèmes. Non, ça va pas. Par contre, il y a une autre obéissance, c'est l'obéissance par amour. Lorsqu'on obéit vraiment de manière consentie, volontaire, par amour. Et ça m'a rappelé, je suis dans les souvenirs d'enfance pour le moment, ça m'a rappelé l'histoire de Croc-Blanc. Je ne sais pas si on lit encore cette histoire. Moi, je me rappelle que mon instituteur, en 5e, 6e primaire, toutes les fins de journée, il nous lisait quelques pages de l'histoire de Croc-Blanc. Croc-Blanc, c'est un chien loup, ou un loup chien, je ne sais pas comment il faut dire. Il est né de l'accouplement d'un loup et d'une chienne qui est retournée à l'état sauvage. Et donc, il a un peu les deux natures en lui. Et très vite, Croc-Blanc, il est séparé de sa mère. Et il n'a pas eu le temps d'apprendre à se débrouiller dans la nature, tout seul. Parce que c'est la mère qui apprend aux petits à chasser, à se débrouiller dans la nature. Et il est contraint de rejoindre un village d'Indiens. Et il va devoir se soumettre. S'il veut manger, ben il doit se soumettre. Mais comme il a le caractère du loup, hein, c'est lui, il est rebelle, il est indépendant, il est farouche. Mais face au coup de bâton, il se soumet. Et finalement, il se dit, de toute façon, ça ne sert à rien que je me rebelle, parce que de toute façon, je vais recevoir des coups de bâton, et finalement, je vais devoir quand même obéir. Et alors, il va se mettre à obéir. Mais parfois, il se rebelle, parce qu'il n'y a rien à faire. Il y a cette nature farouche qui ressort. Et de maître en maître, comme ça, il va constamment être confronté à cette situation-là, à des hommes qui vont se faire obéir uniquement par les coups de bâton ou de fouet. Et puis un jour, il se rebelle contre son maître et le maître commence à le frapper au point qu'il va le tuer. Et il y a un homme qui se présente, qui arrive, qui arrête le bâton, qui rachète le chien dans un état pitoyable. Il ramène Croc-Blanc chez lui et il va le soigner. Et tout doucement, il va essayer d'établir une relation avec le chien. Et au début, Croc-Blanc, il est méfiant, bien sûr, il grogne, hein, parce qu'il a été déçu par les hommes. Lui, il ne connaît que la violence. Il n'a connu que la violence dans toute sa vie. Mais petit à petit, il commence à apprécier la présence de cet homme. Et il se rend compte que quand cet homme s'en va, il ressent une tristesse. Et que quand l'homme revient, il ressent de la joie. Des sentiments qu'il n'avait plus ressentis depuis qu'il avait été séparé de sa mère. Et donc, petit à petit, va s'installer une relation entre le chien loup et cet homme. Et Croc-Blanc va se mettre à obéir à cet homme, à ce nouveau maître, non plus par contrainte, parce qu'il a peur du bâton, mais parce qu'il aime son nouveau maître. Il s'est attaché à lui et il veut lui faire plaisir. Et ça nous rappelle aussi notre état lorsque nous étions sans le Seigneur, lorsque nous ne connaissions pas le Seigneur, nous étions rebelles, indépendants, on ne voulait pas se soumettre. Ou alors lorsqu'on se soumettait, c'était par obligation. Et puis un jour, on a été touché par l'amour de Dieu. Et nous nous sommes affectionnés à ce nouveau maître. Et alors nous nous sommes mis à le suivre et à l'obéir. Notre ancienne nature de loup a dû faire place à une nouvelle nature caractérisée par l'amour. Cet amour que Dieu a manifesté pour nous et l'amour et la reconnaissance que nous éprouvons pour ce Dieu extraordinaire. Malheureusement, notre ancienne nature cherche à refaire surface. Elle n'est pas vraiment morte, elle est là, elle est assoupie, Et parfois, elle arrive qu'elle parvienne à refaire surface. Mais le Saint-Esprit qui est en nous veille, il nous avertit. Et c'est pour ça que lorsque nous prenons conscience que nous avons eu un mauvais comportement et nous sommes plongés dans une tristesse parce que nous avons attristé celui que nous aimons le plus. Nous avons attristé notre Père. Alors nous sommes, comme dit Esdras, dans la honte et dans la confusion. Mais que cela ne nous empêche pas de revenir vers, vers notre Dieu. Si notre cœur est plein de repentance, d'une sincère repentance, Dieu ne nous rejettera pas, mais au contraire, il va nous accueillir. Et dans le psaume 119, je me souviens qu'il y a, il me semble, si je ne me trompe pas, qu'il y a un verset où le psalmiste dit « Rends-moi la joie de mon salut ». Alors, on revient vers le Seigneur et on dit « Seigneur, je suis triste de t'avoir déçu. Dis-moi que tu me pardonnes afin que je puisse retrouver cette joie que j'ai en toi. » Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Il y a un beau verset aussi de Paul qui dit dans 2 Corinthiens au chapitre 7 au verset 1 « Ayant donc de telles promesses, promesses de la vie éternelle bien sûr, hein, promesses d'être justifiés devant Dieu, purifiés par le sang de Christ, parce qu'on n'a pas été rachetés par de l'or ou des pierres que nous disons précieuses, mais on a été rachetés par le précieux sang de Jésus. Ayant de telles promesses, bien-aimés, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, dans le respect de Dieu. » Voilà donc. J'aimerais terminer par un chant. Ce chant, donc, ce sont les paroles que nous retrouvons dans 2 Chroniques, au chapitre 7, au verset 14, et qui nous rappelle l'histoire du peuple d'Israël, la relation d'Israël avec son Dieu. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Merci.